Europe 1.
Heures, 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Stéphane Bern. Je suis ravi de vous retrouver pour Historiquement vôtre. Deux heures où le savoir et la bonne humeur vont main dans la main, à l'image de ce tandem que nous formons désormais avec Mathieu Noël. Bonjour Mathieu.
Bonjour Stéphane et bonjour à vous qui nous écoutez. C'est vrai que, comme disait Stéphane, on est heureux de vous retrouver. C'est pour nous un soulagement. Quand on vous laisse chaque jour à 18h après l'émission, eh bien, vous nous manquez, chers auditeurs. Et pour combler ce manque, ma foi, avec Stéphane...
On se console lourdement à la bière dans les tavernes de Munich.
Non Stéphane, non, on prépare l'émission du lendemain, c'est plus intelligent.
Oui, pardon, on avait dit qu'on dirait ça. Mais justement Mathieu, qu'est-ce qui nous attend aujourd'hui?
Alors aujourd'hui Stéphane, nous allons partir à la rencontre des grands collectionneurs de l'histoire. Il y a évidemment différentes formes de collectionneurs. Certains collectionnaient les œuvres d'art, d'autres les timbres. Vous, Stéphane, votre truc, bon, c'est les tapisseries, comme vous me l'expliquiez ce week-end en me faisant visiter votre appartement.
7 ans de travail acharné sont nécessaires à la fabrication de la seule tapisserie du Baldaquin.
Oh, bah, magnifique, Stéphane. Un poil kitsch, mais en même temps, je m'imaginais pas trouver des meubles Ikea chez vous. Hein. Quant à nous, cet après-midi, nous allons retracer les destins très différents de 3 grands collectionneurs. Philippe de la Renotière von Ferrari, le plus grand collectionneur de timbres de l'histoire. Giacomo Casanova, le plus grand collectionneur, Stéphane, de...
Bah de femmes.
De femmes, vous connaissiez.
Oui, et bah puis... oui, quand même. J'ai fait un secret d'histoire.
Je vous teste de temps en temps. Des questions pas trop dures pour commencer la saison. Et puis, afin de siphonner éhontément à Énergie et Fun Radio un public jeune, nous évoquerons Stéphane en 3e personnage plus contemporain. C'est une star que les jeunes skiffent Vegra, comme ils disent.
La merveilleuse Romy Schneider.
Presque, Bob Sinclair.
J'adore Bob Sinclair. Enfin,
vous ne savez pas qui c'est.
Mais bien sûr que si. Bon, qui Give me love, rock this party, kiss my eyes.
Pas se tromper sur la prononciation de ce dernier tube, elle est piégeuse. Bob Sinclair, qui est en tout cas non seulement un DJ mondialement connu, mais un immense collectionneur de disques. Chez lui, il y a plus de 35 000 vinyles. Vous en avez combien, vous, Stéphane, des disques? Vous savez, vous avez compté?
Oui, ben maintenant c'est les CD, vous savez,
j'ai plus de vinyles. Enfin, maintenant, c'est plutôt oui. Maintenant, c'est dématérialisé. Mais à votre époque, c'était les CD.
Allez, revenons au programme du jour, Mathieu. Au sommaire aujourd'hui, et comme chaque jour, savamment distillé au milieu de notre triptyque de collectionneurs de talents, notre collection de chroniqueurs dont certains ne datent pas d'hier.
Bon, c'est pas très sympa pour Clémentine Portier-Kaldenbach, ça, Stéphane.
Bah, c'est vrai
que notre chroniqueuse histoire accumule une somme impressionnante d'anecdotes, souvent croustillantes depuis de nombreuses années maintenant, mais elle les remet toujours au goût du jour. Hein.
Non, mais je parlais évidemment d'Olivier Pouls, qu'on retrouvera lui tout à l'heure pour nous raconter l'histoire des moules frites, une fois.
Vous avez eu une tentative d'accent belge là, Stéphane.
Une tentative.
Une tentative ou nette. Vous avez décidément tous les talents, Stéphane, sauf peut-être celui de savoir répondre correctement aux questions de notre désormais célèbre quiz. Quiz où chaque jour votre réputation en prend un sacré coup, mais qui permet à nos auditeurs de savoir que par exemple, le chanoine Félix Kir a donné son nom à une boisson.
Ah oui, le Kir.
Voilà, vous avez bien retenu. Et on va démarrer, Stéphane, avec la chronique toujours passionnante d'un garçon un poil snob, David Castello-Lopez, comme on a pu le remarquer hier en antenne alors que j'essayais juste d'engager la conversation.
Et toi David, tu as fait de la radio ou tu...
Plutôt de la télé.
Oh, quel primeur ce Castello-Lopez.
16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement Vôtre, consacré aujourd'hui aux grands collectionneurs de l'histoire, Philippe de la Renotière von Ferrari, Casanova et Bob Sinclair. Mais avant ça, comme chaque jour, on remonte aux origines d'un objet de notre quotidien avec David Castello-Lopez, dont certains thèmes plaisent plus à Stéphane que d'autres, comme on a pu s'en rendre compte hier durant la coupure pub. Écoutez. Oui, l'ambiance était déjà assez chaude dans le studio quand soudain...
Qu'est-ce que c'est aujourd'hui, David?
La fermeture éclair.
Ah, j'adore.
Il adore. Aujourd'hui, si ça vous plaît autant, Stéphane.
Bonjour, David Castello-Lopez.
Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord, Mathieu et Stéphane, mais tout de même...
On est tout le temps d'accord avec Stéphane, oui. Contractuellement.
Oui, oui,
on est obligé d'être d'accord.
Là, en l'occurrence, c'est d'accord avec moi ou pas. Ah. Moi, je trouve quand même qu'il y a des légumes dont le succès est émouvant. Et je pense en particulier à la pomme de terre. Je veux dire, c'est si laid, la pomme de terre.
La pomme de terre est un légume, donc.
Mais oui, c'est un légume au sens pas botanique, mais au sens de comment on l'utilise, quoi.
Ah oui.
Il faut se l'avouer, je veux dire, c'est une sorte d'éléphant man lépreux du potager, vous voyez. J'en ai apporté une ici, vous voyez. Toute tordue, sans forme définie, avec une mauvaise peau en plus, qui est quelquefois pleine de petites tumeurs qu'il faut enlever une à une. Et aujourd'hui, pourtant, la pomme de terre, c'est le légume le plus consommé au monde, très loin devant le numéro 2, qui est la tomate. Et moi, je vois ça comme une sorte de revanche des moches. Oui. Et cette revanche, la pomme de terre, elle la doit beaucoup à une de ses déclinaisons les plus délicieuses, la chips.
Oh, la chips.
C'est-à-dire de la pomme de terre coupée en fines lamelles et frite dans de l'huile. Pendant longtemps, il n'y avait qu'une seule version des chips en vente dans les supermarchés. C'était les chips goût sel, c'est-à-dire les chips goût pomme de terre, quoi. Mais aujourd'hui, il y a des chips à tout. Goût bacon, goût fromage, goût oignon. Et depuis une quinzaine d'années, je vois même les parfums de chips se complexifier à une vitesse complètement folle. Ça a commencé par les chips goût poulet braisé.
J'adore, et ça sent vraiment le poulet.
Tout à fait.
Stéphane est écœuré.
Bolognaise, et puis plus récemment, un certain nombre de chefs-d'œuvre que j'ai commencé à collectionner, comme les chips goût hamburger, j'ai apporté un paquet ici.
Oh, ça va loin.
Et surtout les chips goût sandwich jambon beurre.
Non, ça existe.
Si, je vous ai apporté ici un exemplaire
mais
de ma collection.
Mais quel est l'intérêt ? Ça n'a pas d'intérêt.
Bah si, quand même. Je vous ai apporté ici un exemplaire de ma collection qui est un millésime de 2016. Oh, je vous le fais passer.
Ah, oui.
Il est entamé, hein, parce que j'avais
évidemment
un peu faim.
Mais vous ne l'avez pas terminé.
Oh, la chips est encore croquante.
Faites attention, c'est un millésime, ça vaut quand même au moins 1,90€, donc voilà, faut pas déconner.
Saveur sandwich parisien. Oui. Regardez-moi ça, Stéphane. Déjà, vous ne mangez jamais de chips, imaginez.
Si, j'en mange,
c'est
mais...
vrai. Oui, à la truffe.
Mais...
Alors,
mais non,
oui,
David, mais non.
Moi, quand même.
Mais quelle réputation vous me faites.
Je me pose quand même une question. Chips, sandwich, jambon, beurre. Dans un sandwich, jambon, beurre, il y a du jambon, il y a du beurre, mais quand même, il y a surtout du pain. Donc, dans une certaine mesure, les chips, goût sandwich, jambon, beurre, eh ben, c'est des chips, goût pain. Donc un féculent parfumé avec un autre féculent, c'est comme du riz parfumé aux pâtes. C'est complètement Inception, vous voyez. Mais bon, vous commencez à me connaître, comme d'habitude. Moi, ce que j'ai eu envie de savoir, c'est d'où ça vient les chips parfumés à des trucs. Est-ce que vous connaissez la marque de chips Tato?
Ah non, et pourtant, je crois m'y connaître en chips.
Oui. Eh bien, c'est normal parce que parmi vos nombreuses qualités, vous n'avez pas celle d'être irlandais. Ah. Or, Tato, c'est la marque de chips irlandaise. L'équivalent de Vico chez nous, si vous voulez.
Vous le connaissez, c'est le roi de la pomme de terre.
Bien sûr, mais je sais, voilà. Mais quand même.
Donc nous, on a Vico. Les Irlandais, ils ont Tato. Tato, ça a été créé en 1954 par un type avec un nom de mafieux qui s'appelait Joe Spud Murphy. Et pourquoi Tato? Eh bien, apparemment, parce que c'est comme ça que son jeune fils bébé prononçait le mot potato. Il n'arrivait pas à dire le pot.
Oh, ça, c'est chou.
Et voilà, ça veut dire pomme de terre. Il disait Tato, Tato. Et voilà. Et Joe Spud Murphy.
Vous êtes moins mignon que j'imaginais l'enfant, là, avec votre barbe, là, j'ai du mal à.
Oui, oui, j'étais très beau enfant, ça s'est gâté avec la suite. Et Joe Spud Murphy, il trouvait que les chips au sel, c'était chiant, hein, d'autant plus qu'à l'époque, le sel, il n'était même pas incorporé, il fallait le mettre soi-même sur les chips comme un con. Et donc, il s'est dit, vas-y, j'aimerais bien que mes chips, elles aient un goût de quelque chose. Et il a inventé une
c'est
technique.
C'est la vérité, si je mens. Il a les chips, il faut que j'aille le goût de quelque chose.
Alors. J'essaie d'imaginer. Il a inventé une technique dont, malheureusement, malgré tout mon pouvoir d'investigation, je n'ai pas pu retrouver la trace, mais. Mais cette technique devait probablement faire intervenir la maltodextrine. La maltodextrine, c'est une sorte de truc un peu farineux qui a le pouvoir de rendre des substances huileuses saupoudrables. Voyez. Donc par exemple, vous avez du jus de chorizo, vous le mélangez avec de la maltodextrine et ça vous donne de la poudre de chorizo.
Saveur chorizo.
Et du coup, vous pouvez faire des chips goût chorizo.
Formidable.
Et la première saveur de chips que Joe Spud Murphy a créée, c'était les chips goût fromage et oignon. Et bien sûr, ça a cartonné. Et aujourd'hui, Tato, c'est un géant de la chips. Il y a même un parc d'attractions Tato en Irlande. Mais la question que moi, je me pose aujourd'hui, c'est pourquoi s'arrêter aux chips goût jambon fromage ou blanquette de veau? Je veux dire, on devrait aller plus loin. Je veux dire, pourquoi pas des chips goût après-midi d'automne au bord du lac de Côme, voyez, ou des chips parfumés au respect et à la confiance. Et donc, pour vous, Mathieu, j'ai pris les choses en main aujourd'hui et j'ai créé la première chips du monde goût confinement. Pour la faire, rien de plus simple. J'ai ici.
Vous allez le faire sous nos yeux.
Je vous le fais, je le fais sous vos yeux. J'ai ici un paquet de chips en parfum. Je rajoute quelques millilitres de gel hydroalcoolique dessus. Voilà, comme ça.
Oh mon Dieu.
Je coupe dedans quelques morceaux, de masque de protection.
Usé,
comme
bien
ça.
Sûr. Utilisé.
Voilà, utilisé, bien
sinon,
sûr. Sinon, ça n'a pas de goût.
Évidemment.
Voilà, je secoue un petit peu et je vous l'offre. Voici vos chips goût
merci.
Confinement.
Eh ben, je veux dire, ça peut pas être plus dégueulasse qu'à mon avis, les chips sandwich parisiens que vous nous avez offerts juste avant.
Merci beaucoup. Oh, c'est fabuleux, oui. J'ai appris plein de choses. Bravo David Castello-Lopez.
Merci.
Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, spécial collectionneur continu. Et Stéphane, si je vous dis que notre premier personnage du jour a eu besoin de beaucoup de patience, d'argent et d'énormément de doigté, et surtout d'un bon coup de langue, vous êtes en mesure de deviner l'objet de sa collection?
Oui, mais la décence m'interdit de vous le dire.
Mais non Stéphane, il collectionnait les teints. À un moment, voilà. Faut bien les coller.
16h, 18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre. 2 heures de détente pour vos zygomatiques et de spectacle pour votre cerveau à la rencontre chaque jour de 3 personnages très différents, mais qui ont ensemble un point commun. Aujourd'hui, ils sont tous les 3 collectionneurs.
Oui, d'ailleurs Stéphane, je peux t'appeler Steph, on se connaît bien maintenant. Justement Steph, j'ai entamé une petite collection de montres. J'ai déjà 2 Casio et 3 Swatch. Là, je vise une Patek Philippe, petite marque suisse. Mais comment dire, ça m'arrange pas trop au niveau de l'argent, quoi. Je me dis que finalement, Noël n'est pas loin. On peut même dire qu'il approche à grands pas. Peut-être que toi, tu pourrais
Non mais Mathieu, pardon, mais on est collègues, je suis pas ton mécène.
Oui, autant pour moi Stéphane. Veuillez m'excuser, je vais me ressaisir. Même une petite oméga, toute petite.
Mathieu !
Bon, d'accord, pardon Stéphane. Passons plutôt à votre premier récit du jour, car l'heure tourne. Même si faute de moyens, je ne peux pas le vérifier à mon poignet.
Historiquement vôtre.
Le récit.
La collection la plus simple et la plus facile à démarrer, c'est sans doute le timbre. C'est d'ailleurs l'une des plus courantes. Un Français sur 10 collectionne ou a collectionné des timbres à un moment de sa vie.
Je vous arrête, Stéphane, la collection la plus simple à commencer, c'est les cartes Panini. Hein. Vous allez bureau tabac, j'ai commencé, Panini. Ça, c'est dans votre monde qu'on collectionne les timbres. C'est un peu chicos, les timbres.
Pas du tout, moi j'ai commencé par les timbres oblitérés.
Vous êtes chic, vous.
Non, mais on vous écrit jamais, vous.
Plus beaucoup aujourd'hui, parce qu'il y a un truc qu'on a inventé, c'est le mail. Et vous recevez moins de courriers, à part ceux du Trésor public, pour nous rappeler les infos.
Et en fait, ils ont une franchise postale.
En plus, il n'y a plus de timbres.
Ils mènent même pas de timbres. Eh bien, cocorico, mon cher Mathieu, au panthéon des plus grands collectionneurs mondiaux. C'est effectivement un Français qui occupe la première place. Philippe de Ferrari, ou plutôt pour être complet, Philippe de la Renaultière von Ferrari. Mais
je me serais appelé de Ferrari, j'aurais collectionné autre chose que les timbres. Enfin, j'aurais essayé en tout cas.
Non, son truc à lui, c'était les timbres. Au point de devenir l'un des philatélistes les plus célèbres du monde. Ou plutôt un timbrologue, comme on disait à l'époque, au 19e siècle. On parlait aussi de timbromane, mais là, c'est pas franchement un compliment, vous voyez. Pour comprendre comment est née cette coûteuse passion de la philatélie, il faut commencer par revenir sur le timbre. Ça semble tout bête et épouvantablement banal, mais un timbre, quand le premier apparaît en Angleterre en 1840, il faut savoir, cher Mathieu, que c'est une petite révolution.
Mais c'est-à-dire avant ça, les gens ne pouvaient pas s'envoyer de lettres ?
Si, c'était le destinataire qui payait pour, pour recevoir la lettre. Pas
ça,
pour
ça
l'envoyer, mais c'est trop cher pour beaucoup de gens. Soit on refuse les lettres pour ne pas payer, soit on se débrouille. Par exemple, il y avait une méthode. Les plus pauvres écrivaient souvent quelques mots directement sur l'enveloppe. À l'arrivée, ça permettait de refuser la lettre, de ne pas payer le timbre, mais on comprenait l'essentiel d'un coup d'œil. On voyait « je vais bien », voilà, etc. À la fin des années 1830, la révolution industrielle et l'explosion démographique changent la donne. La reine Victoria, 3 ans après son arrivée sur le trône, en 1837, je le rappelle pour vous, fait construire un service postal fiable, efficace et bon marché, avec une idée simple. Ne plus faire payer l'envoi par le destinataire, mais par l'expéditeur. Avec un moyen tout aussi simple, un petit carré de papier imprimé au recto qu'on achète au bureau de poste et qu'on fixe sur l'enveloppe avec de la gomme arabique pour montrer qu'on a bien affranchi sa lettre et qui est tamponné pour oblitérer, en quelque sorte, pour repérer les exemplaires déjà utilisés. Un timbre rapidement copié dans le monde entier. En France, le premier timbre est édité 9 ans après l'Angleterre, c'est-à-dire en 1849. Il représente la déesse romaine des moissons, Cérès, l'équivalent de notre Marianne pour la Deuxième République. Chaque symbole, chaque dessin met en avant un dirigeant, une innovation technique, un monument prestigieux, un exploit technologique, un panorama exotique. Et c'est cette variété des modèles qui explique pourquoi très tôt, des collectionneurs commencent à s'arracher les plus rares, quitte à payer le prix fort. Et quand on se met à parler d'argent, il y a quelques arguments à faire valoir, ce monsieur Philippe von Ferrari. Né en 1850 à Paris, il a grandi à l'hôtel Matignon,
l'un des plus beaux. Donc.
Oui, alors, avant d'être la résidence
Il y avait pas encore
Premier ministre.
D'accord.
Oui, c'était celui.
Il faisait pas une colloque avec le Premier ministre.
Non, c'était l'hôtel particulier de la duchesse de Galliera, madame sa mère. Et son père
madame
était.
Madame sa mère ou madame son père? Mais de quoi vous me parlez?
Je parle de monsieur von Ferrari, qui était, dont la mère était la duchesse de Galliera et son père le marquis de Ferrari. Ce qui en fait l'héritier d'une famille d'aristocrates italiens qui compte parmi les plus riches et les plus en vue d'Europe. Déjà, il fallait se payer l'hôtel Matignon, vous voyez.
Oui,
enfin, l'héritier ou pas. D'ailleurs, parce qu'à 26 ans, lorsque son papa meurt, il refuse les titres et une partie de la fortune familiale. Mais il est adopté, imaginez-vous, par un aristocrate autrichien, le comte de la Renaultière von Kriegsfeld.
J'avais oublié à quel point vous maniez bien les langues, Stéphane.
Les mauvaises langues. Surtout, elles estiment que le comte allemand était peut-être le véritable père du jeune homme.
Ah.
Mais passons. Descendant d'une famille italienne, français par sa naissance à Paris, Philippe von Ferrari se retrouve autrichien par adoption. Et ça, vous allez le voir, ça aura des conséquences. En attendant, notre collectionneur n'a toujours pas de problème de fin de mois. Oui, on parle d'une fortune estimée à 120 millions de francs or tout de même. Et quand on allie une fortune pareille à la passion des timbres, on se retrouve vite en position de rassembler la plus grande et la plus belle collection du monde et de la garder précieusement toute sa vie. Enfin, normalement.
Europe 1, historiquement vôtre.
Vous savez à qui vous faites penser, Stéphane, quand vous vous interrompez comme ça au milieu d'un récit pour laisser place à la pub ?
Non, à qui ?
Au personnage de Jean-Michel Amoitié, immortalisé par Cadmérade.
Il ne chante que 50% de ses chansons préférées, c'est Jean-Michel Amoitié.
C'est un beau roman.
C'est hyper frustrant, Stéphane. Vite, la suite !
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Il n'a pas son pareil pour monter en puissance, vous faire tressaillir, vous faire vibrer, puis s'interrompre brutalement pour vous laisser essouffler et hagard avant de reprendre son récit excitant. Stéphane, vous nous parlez aujourd'hui du collectionneur Philippe de la Renotière von Ferrari. Vous nous avez alléché avec la plus belle collection de timbres du monde, mais ça ressemble à quoi, la plus belle collection de timbres du monde ?
Bien, ça ressemble à une collection qui compte une foule de timbres rarissimes achetés à prix d'or.
Non, mais soyez plus précis.
Alors, Philippe de la Renotière von Ferrari ne compte pas. Il est même connu pour ça. Il a un côté impulsif, une tendance à ne jamais discuter un prix, mais attention, c'est un passionné et un authentique connaisseur. Il paye rubis sur l'ongle et sans doute trop cher parfois, eh oui. Mais d'une, il peut se le permettre et de deux, c'est aussi une manière de se construire un réseau de vendeurs qui pensent à lui et pas aux autres quand il tombe sur une pièce rare. Cette capacité à se créer un réseau de fournisseurs fidèles explique que sa collection compte autant de raretés, on l'a dit, mais surtout trois pièces absolument uniques. Trois timbres dont il n'existe à chaque fois qu'un seul exemplaire connu.
C'est un peu comme si le roi Arthur avait trouvé trois fois le Graal.
Oui, le premier, il est très célèbre, c'est le 1 cent magenta, émis en Guyane britannique en 1856. C'est évidemment le profil de la reine Victoria. C'est toujours aujourd'hui le timbre le plus cher au monde, estimé à plus de 7 millions d'euros, enfin aux dernières nouvelles.
Mon anniversaire, c'est le 13 novembre, Stéphane, vous pouvez le noter.
Ça vous ferait plaisir, un petit timbre?
Un petit timbre, oui, peut-être le 1 cent magenta, surtout pas n'importe quel timbre.
Oui, je savais que vous étiez timbré, mais à ce point. Le deuxième, c'est l'unique exemplaire neuf connu d'un des premiers timbres de Hawaï, le Two Cents bleu. Le dernier vient tout droit du royaume de Suède, le Treskelling jaune, dont un seul exemplaire a survécu. En 1914, Philippe von Ferrari peut se vanter d'avoir la plus belle. La plus belle collection de timbres.
Oui, vous finissez bien votre phrase, Stéphane, ne marquez pas des temps.
Il en est d'ailleurs parfaitement conscient et à plus de 60 ans, en 1915, il décide de préparer l'avenir. Sa collection incomparable, cet héritage unique, doit pouvoir être accessible à tous après sa mort. Il choisit d'en faire don au seul musée postal du monde, celui de Berlin. Sauf qu'il ne vous a pas échappé qu'il se passe quelques petites bricoles entre la France, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, entre 1914 et 1918. Et le problème, c'est que Philippe von Ferrari est à la fois français et autrichien. Et puis en plus, il a une très mauvaise idée. Il passe l'arme à gauche à Lausanne en 1917, où il s'est installé au début de la guerre. Et là où c'est moche,
non,
c'est qu'il est arrivé sans sa collection, qui elle est restée à Paris.
Ah, je crains le pire.
En effet, le pire arrive. Quand la guerre se termine, la Troisième République a une devise. L'Allemagne paiera. Pas question alors de laisser une collection aussi riche filer à Berlin. Au nom des dommages de guerre, la France saisit la collection de Philippe von Ferrari et décide de la vendre aux enchères. Bon, sur le plan patrimonial, autant le dire tout de suite, c'est consternant. Mais sur le plan financier, pour la République française, c'est un joli coup. Les 14 ventes successives rapportent à l'État la somme de 30 millions de francs de l'époque.
Ça fait combien en euros d'aujourd'hui, Stéphane ?
Oh, beaucoup, beaucoup. Beaucoup plus.
Vous êtes toujours vague aussi, vous êtes comme ça aussi quand le fisc vous interroge. Vous dites beaucoup, beaucoup, mais...
Non. Philippe de la Renotière von Ferrari aura au moins eu la chance de ne jamais voir ainsi dispersé le travail de collection de toute une vie.
Europe 1, historiquement vôtre.
L'histoire de Philippe de la Renotière von Ferrari vous a captivé ? Vous voulez plonger plus avant dans l'univers étrange de la philatélie ? C'est ce que je me disais. C'est pour ça que j'avais prévu de recevoir un spécialiste.
Bonjour Gauthier, tout le monde.
Bonjour.
Vous êtes explorateur, membre de la Société des explorateurs français, mais si on vous reçoit aujourd'hui, c'est parce que vous êtes vous-même un grand collectionneur de timbres. Les gens du milieu vous connaissent parce que vous avez très longtemps été, jusque très récemment, le rédacteur en chef d'un excellent magazine, Timbre Magazine. La question qui nous taraude tous... C'est où est passée, en définitive, la collection de Philippe de la Renotière von Ferrari, puisqu'il y a eu 14 ventes successives, donc toute cette collection a été dispersée. Où est-ce qu'on peut retrouver ces timbres uniques au monde ?
Alors, on va revenir sur le timbre le plus rare du monde, le 1 cent magenta.
Oui.
En fait, c'est 9,5 millions de dollars. Ah, il a été vendu à Stewart Weissman, qui est un designer de chaussures, qui fait des chaussures notamment pour Kate Middleton. Donc on a un personnage atypique, on ne s'imagine pas du tout en train de collectionner des timbres. Le One Set Magenta ne représente pas la reine Victoria, pas du tout.
Ah non, c'est le rouge. Là, c'est
voilà, c'est l'horrible timbre rouge.
Ah, vous êtes en train de dire qu'il y a une connerie dans la...
Une petite imprécision.
Mais c'est le
C'est le plus laid qu'on puisse faire et c'est le plus cher.
Exactement.
C'est là le paradoxe.
C'est fou.
Donc, on voit un vague bateau, le timbre n'a pas de dents, il est franchement moche. Il a été découvert par un enfant de 12 ans dans les archives familiales. Et ce qui est incroyable, c'est que dans la collection Ferrari, beaucoup des grandes raretés ont été découvertes par des enfants. Le 3 Skilling Banco de Suède, timbre rarissime de Suède, 2 millions d'euros aujourd'hui quand même, des enfants. L'enveloppe de l'île Maurice, des enfants également, quai des Chartreux, dans des vieux ballots d'anciens journaux, etc. Ils retrouvent des enveloppes rarissimes, des timbres rarissimes, ce qui est assez incroyable. Et le timbre le plus rare du monde, le One Set Magenta, 9,5 millions de dollars, également par un môme qui a 14 ans et qui va dans les papiers de sa grand-mère et qui dit tiens qu'est-ce que c'est, il dit bah, j'en sais rien et il le vend à un négociant 6 shillings. Quand on regarde après
avoir, le petit
ce que ça vaut, malheureusement, il a raté une bonne affaire.
Est-ce que c'est possible aujourd'hui en 2020 de tomber sur un timbre rarissime comme ceux dont on parle depuis tout à l'heure ou c'est plus possible aujourd'hui? Ils sont tous répertoriés et on sait où ils sont.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des tas de collections qui sommeillent.
Au fond d'un grenier, on peut trouver.
Dans le fond d'un grenier. J'ai rarement les cas parce que ça, avec l'humidité, c'est pas terrible. Mais oui, on peut trouver. Alors, je pense pas qu'on trouvera l'équivalent d'un One Sense Magenta dans un grenier. Mais on peut trouver des choses qui réellement peuvent dépasser les 10 000, voire les 100 000 euros sans trop de difficultés. Le tout, c'est de connaître un petit peu, d'avoir l'œil.
Mais vous m'avez pas dit où étaient les timbres.
Alors, les timbres, le One Cent Magenta, il partit chez Stuart Weissman.
Oui.
L'enveloppe de l'île Maurice, jusqu'à un temps récent, c'est parti chez un japonais. Le rarissime tête beige du franc vermillon, on me dit que c'est un américain qui l'a acheté récemment, et puis on me dit qu'en même temps c'est un français, donc les collectionneurs se font assez discrets. Ils n'ont pas très envie qu'on aille chercher leur timbre chez eux.
Voilà. Bon, je vous propose de continuer à parler de la collection de timbres et des timbres de collection avec Gauthier Tout le Monde. On est sur Europe 1 avec Mathieu Noël.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire. Chaque après-midi avec Stéphane Bern, nous évoquons trois personnages surprenants. Ils n'ont pas vécu à la même époque, ils n'étaient pas du même milieu, mais ils avaient une passion commune, aujourd'hui celle de la collection. Et avant de partir à la rencontre de Casanova et de Bob Sinclair, le DJ préféré de Stéphane, nous évoquons pour l'heure avec notre invité Gauthier Tout le Monde l'histoire de Philippe de la Renaultière von Ferrari. Rien à voir avec Lolo Ferrari qui, à l'heure qu'il est, repose en paix, mais sur le côté. Mais oui, on se souvient. Gauthier Tout le Monde, moi j'ai une question très simple. C'est ce qui fait la valeur d'un timbre, c'est uniquement sa rareté. On a compris, c'est pas sa beauté, c'est pas le caractère esthétique, c'est le nombre de timbres qu'il y a eu.
Oui, plus il est rare, plus il est cher.
Tout simplement.
Et plus il est en bon état, plus il sera cher. Mais un timbre moche, comme on l'a vu, être très bien coté. Il n'y a aucun problème.
Mais comment vous expliquez que les premiers timbres, il en reste si peu d'exemplaires, alors qu'au fond, tout le monde voulait les garder, j'imagine, à l'époque?
Alors, au départ, la collection est venue un petit peu sur le tard. Donc, il y avait ces timbres, on ne savait pas trop quoi en faire, donc les gens, au départ, les ont jetés. Et puis après, ils se sont dit, tiens, ça peut faire l'objet d'une collection. Mais après, le temps qu'on se dise, tiens, je vais le découper, puis est-ce que vraiment ça vaut quelque chose? Donc, il y avait des doutes. Donc, tous n'ont pas été conservés. Donc, c'est comme ça qu'on crée un phénomène de rareté. Et puis, au fil du temps, bien évidemment, les gens sont aperçus que ça valait quelque chose. Et puis, on les a effectivement gardés. Mais encore une fois, il y a beaucoup d'albums qui sommeillent, notamment en France, dans les greniers.
Alors, en préparant cette émission, quelle ne fut pas ma surprise lorsque j'ai découvert, cher Stéphane, que vous avez publié vous-même, il y a 2 ans à peine, Le Temps des Rois, l'histoire de France racontée par les timbres, pour la modique somme de 8 euros, vous pouvez vous procurer. Et donc, vous êtes philatéliste, vous aussi, Stéphane?
Absolument, et j'ai même fait les jardins à travers les timbres. Et
c'est une manière de parcourir l'histoire.
Exactement. Moi, je suis collectionneur depuis que je suis gamin. Ça commence avec les enveloppes qu'on recevait à l'époque. Vous savez, je vous parle d'un temps.
Oui, parlez-moi de
ça. On recevait des enveloppes avec des timbres et on découpait, on faisait sécher, on transformait la salle de bain familiale en salle de séchage de timbres oblitérés.
Oui, on n'a pas tous eu la même adolescence.
Mais je parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître.
Vous, Gauthier, c'est venu comment cette passion?
Un peu par hasard. Très rapidement, j'étais dans une banque d'affaires où on m'a proposé de racheter une société qui éditait des magazines philatéliques. Pour moi, c'était affreusement poussiéreux et ringard. Et puis, je me suis laissé faire parce que j'étais passionné d'histoire et de géographie. Et puis j'ai découvert ce monde qui est réellement passionnant. Réellement passionnant.
Parce que chaque timbre a une histoire.
Chaque timbre a une histoire. On pourrait en parler avec Stéphane pendant des heures. C'est incroyable. On découvre même la géopolitique grâce au timbre. C'est un outil pédagogique incroyable. Je suis également vice-président de la DEFIL. Donc la DEFIL, c'est l'association pour le développement de la philatélie. On essaie de faire la promotion du timbre auprès des enfants de 8-12 ans et on s'aperçoit que ça les intéresse. C'est assez curieux qu'à l'époque d'Internet, le timbre, c'est un tout petit morceau de papier. Il y a moins de caractères qu'un tweet. Il en dit beaucoup plus. C'est là où c'est incroyable.
Et c'est pour ça que ça intéresse les enfants, parce que justement, c'est coloré, il y a tous leurs sportifs. Ils peuvent, si on aime le sport, il y a le sport dans les timbres. Si on aime les paysages, les monuments, les villages, etc. Mais est-ce qu'il y a des codes à connaître avant de se lancer dans une collection de timbres? Des choses à absolument savoir, sans rentrer dans les dentelés, pas dentelés, vignettes, pas vignettes, parce que maintenant, on n'a plus besoin de les lécher au dos. Pour,
oui, ça, je veux bien, j'ai bien noté, vous me l'avez expliqué
c'est
déjà.
Autocollant, oui.
Alors, ce qu'il faut déjà, c'est aimer. Donc, il faut en manipuler. L'idéal, c'est de demander à des proches de récupérer des timbres, de les manipuler. Et ensuite, une fois qu'on en a un certain nombre, de soi-même, on va pouvoir un peu les classer. Et puis ensuite, l'idéal, c'est de se rapprocher de personnes qui connaissent un petit peu. Alors, il y a notamment une fédération qui s'appelle la Fédération des Associations Philatéliques, la FFAP, qui, en France, va pouvoir aider des collectionneurs, jeunes ou pas jeunes d'ailleurs, pour faire leur premier pas. Il y a un syndicat des négociants qui peut aussi leur dire tiens, ça vaut cher, ça vaut pas cher, il faut acheter ça, etc.
Mais est-ce qu'il y a un guide pour les prix des cartes?
Il y a effectivement des catalogues de cotation qui vont donner une indication de prix. Ouais. C'est pas le prix de marché, mais c'est important. Donc,
il y avait un marché au timbre à Paris.
Tout à fait.
Maintenant, il est un peu exsangue.
Il est un peu.
Tout se fait sur Internet, en fait.
Tout se fait beaucoup sur Internet.
Ça a beaucoup changé, mais avant, on allait. C'était le week-end et puis le jeudi matin, je crois.
Mais sur Internet, comment on vérifie l'authenticité d'un timbre? Il vous dit j'ai le 1 cent magenta là. Pam, il te montre la photo.
J'aurais du mal à vous croire quand même. Hein.
Surtout si c'est Mathieu Noël qui vous fait les fans pour vous le dire.
Je dirais authentifié par Stéphane Merle.
En tout cas, c'est passionnant. On pourrait vous écouter des heures. Merci Gauthier, tout le monde.
Merci.
D'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de cette collection de timbres de monsieur de la Renaultière von Ferrari.
Europe 1, historiquement vôtre.
On nous cache tout, on nous dit rien, chantait précurseur Jacques Dutronc. Et c'est vrai, de l'histoire, on n'en entend connu que ce qu'on voulait bien nous en montrer. Et puis, Stéphane Bern est arrivé. Dans Secret d'Histoire, il a fait sauter les verrous de ces endroits jadis interdits au public. Et il a beau dire, il n'y a pas de moment plus excitant pour lui dans sa célèbre émission de France 2 que lorsqu'il peut glisser la clé dans la serrure d'une porte dérobée en s'exclamant une étincelle de vis au fond des yeux.
Derrière cette porte, vous avez le cabinet de toilette du roi.
Réjouissez-vous mon cochon, notre historienne Clémentine Portier-Kaldenbach s'apprête à nous entraîner dans l'intimité de l'histoire.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre. 2 heures pour vous raconter l'histoire. Sans jamais se la raconter. Chaque jour, 3 personnages qu'a priori aucun lien ne relie. Et pourtant, Mathieu.
En cherchant bien, ou en trichant un peu, on finit par le trouver. Aujourd'hui, une spéciale collectionneur de timbres, de femmes ou de disques.
De Casanova à Bob Sinclair. Mais pour l'heure, Mathieu, c'est le moment de l'émission où on plonge dans les coulisses de l'histoire.
Quelle suavité. Moi, Stéphane, et c'est souvent, même si elle s'en défend à grands cris, dans un énorme nuage de phéromones que nous entraîne chaque après-midi la plus indiscrète des historiennes, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour Clémentine. Point de phéromones aujourd'hui, mais de diamants. Quoique les deux peuvent être étroitement liés.
Oui, tout à fait.
Parce que c'est les diamants qui créent beaucoup de phéromones chez certaines personnes.
Vous racontez ça,
Attention, Marlène Chiappa pas nous écoute, ne faire pas des associations.
Certaines personnes,
c'est vrai.
Ça
peut être des hommes
femmes.
Aussi, c'est vrai.
Henri III, par exemple, ça l'excitait
Mais d'ailleurs, mon anniversaire est le 13 novembre, je vous le rappelle.
Encore.
Les diamants, c'est toujours bien.
Diamants, oui, parlons diamants. En 2004, l'astronaute Neil Armstrong, vous savez, le commandant de la mission Apollo 11, c'est-à-dire le premier homme à avoir marché sur la Lune. Bon, alors, il a réalisé que lorsqu'il faisait rafraîchir sa coupe de cheveux, son coiffeur récupérait les mèches coupées et les vendait très cher, oui. Et ce coiffeur, un nommé Max Sizemore, patron du Max Barber Shop à Lebanon dans l'Ohio, a avoué avoir vendu des cheveux d'Armstrong à des collectionneurs pour $3,000. Et oui, parce que les cheveux d'un homme qui a marché sur la Lune, ça ne se trouve pas sous les sabots d'un cheval. Et alors, à l'époque, indigné par ses larcins, Armstrong avait demandé à récupérer ses cheveux. Et il a menacé, son coiffeur coiffeur de poursuites judiciaires.
Il n'était pas très drôle.
Oui, attendez, mais mettez-vous à sa place. Alors, d'après son avocat, cette vente violait une loi de Loyaux protégeant ses droits. Ses droits sur ses cheveux, qu'est-ce que vous voulez? Alors, le
vous
coiffeur...
Dites Loyaux, vous, c'est...
Oui. Vous dites
Loyaux, je ne sais pas, mais
on dit Loyaux,
mais on peut
nous,
dire peut-être
Loyaux. Oh, Loyaux, oh, ça va, pinailler pas, les gars. Bon, alors, le coiffeur a été sommé de restituer les cheveux ou de faire profiter une œuvre de charité des sommes indûment perçues, et puis en tout état de cause, de prendre en charge les frais de justice générés par cette intéressante procédure. Bon, alors, le coiffeur indélicat, qu'avait-il fait des cheveux? Il a affirmé les avoir vendus à un agent de John Reznikoff. Et John Reznikoff, c'est un célèbre collectionneur américain qui est dans le livre des records, le Guinness Book, ça y est, je le dis bien celui-là, pour être le détenteur de la plus grande collection de cheveux de personnages historiques. Sa collection est assurée pour plus $1 million et elle compterait 115 mèches de cheveux de personnes célèbres, au nombre desquelles Charles Dickens, Abraham Lincoln, Marilyn Monroe, Elvis Presley, John Kennedy, Albert Einstein et naturellement, bien sûr, Napoléon. Non, pas Stéphane Bern.
Mais... Il n'a pas Louis XVI.
Non, je ne crois pas qu'il est Louis
XVI. Pourtant, c'était facile de récupérer. Enfin...
Je vérifierai, mais je ne crois pas qu'il est Louis XVI. Alors, depuis qu'il collectionne les fanères, attendez, pardon pour vous, Mathieu,
oui,
les cheveux célèbres. Voilà. Alors, Reznikoff achète entre 3 et 5 mèches par an. Et autrefois, il collectionnait exclusivement les cheveux de personnages ayant eu une influence positive dans l'histoire de l'humanité. Mais depuis quelques années, bon, alors, il a commencé à collectionner aussi les mèches sulfureuses. Par exemple, il a une mèche de cheveux d'Eva Braun. Alors, je ne sais pas où il s'est procuré ça. Hein. Alors, autre règle d'or, du moins à entendre Reznikoff, il prétend refuser les cheveux de personnalités encore en vie pour que leurs fans n'en viennent pas à les traquer une paire de ciseaux à la main. Hein. Vous voyez, bah, ça pourrait vous arriver. Hein, Stéphane.
Attendez, s'il ne récupère que des mèches de cheveux de gens morts, c'est pas mieux?
Comment
il les récupère? Il faut attendre qu'ils soient morts.
Ah bah oui, bien sûr. Mais il y a des personnalités majeures qui sont vivantes. Par exemple, le pape, il est saisi régulièrement de demandes de mèches de cheveux.
Ah
ça bon vous a jamais arrivé, ça?
D'adresser un courrier au pape?
Non, mais d'adresser un courrier au pape, non. Mais qu'on vous demande une mèche de cheveux par courrier, Stéphane?
Il y a bien des fans qui vous ont demandé ça.
Ça m'étonnerait, ça m'étonnerait, petit canaillou.
Le pape a pas beaucoup de cheveux. Ne blasphémez pas, Stéphane, s'il vous plaît.
Il est chauve.
Alors, depuis quelques temps, Reznikoff médite un gros coup. Il a entamé des pourparlers avec LiveGem, l'une de ses compagnies américaines, qui propose à ses clients de transformer en diamants les cendres de leur chair disparue. Et oui, messieurs, car les cendres ne sont jamais que du carbone, qui, une fois porté à plus de 3500 degrés, change de structure moléculaire et se transforme en diamants. D'après son slogan publicitaire, LiveGem propose là un moyen plus propre pour garder les restes de votre défunt. Plus propre?
Je m'avais mis au doigt.
Ils sont tous là. Quand on vous baisera la main, on baisera tous vos aïeux.
Oui, attendez, attention, parce que c'est plus propre, mais c'est plus cher aussi. Parce qu'il en coûtera entre 3 000 et 20 000 euros pour un carat. Et puis c'est aussi plus tendance, parce que vous pouvez choisir la couleur de votre diamant naturellement. Alors grâce à LiveGem et autres sociétés du même acabit, on peut désormais porter son défunt mari ou son animal de compagnie, Stéphane,
en bague.
Oui, en piercing sur le nez ou au nombril. Hein. Alors j'avais interrogé à l'époque la société LiveGem, je voulais savoir si la taille du diamant était fonction de la corpulence du défunt. Est-ce qu'il fallait que je mette mon mari au régime ou au contraire, est-ce que je le fasse grossir un peu? Alors évidemment, ils ont compris que je plaisantais, ils n'ont pas voulu me le préciser. En revanche, sachez, information cruciale, que vous pourrez bénéficier d'un discount de 20% si vous commandez à l'avance, c'est-à-dire du vivant du futur joyau, et pour toute commande groupée. Donc on peut faire une commande groupée, les copains.
Toute la famille.
Vous faites un prix de gros.
Sachez qu'en 2007, LiveGem a créé 3 diamants d'un demi à un carat qui sont devenus parmi les joyaux les plus chers au monde. Comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien, parce qu'ils ont été réalisés, ces diamants, à partir de cheveux de Beethoven qui provenaient, monsieur, de la collection Reznikoff. De ces diamants a été vendu près de $200 000 sur eBay. Donc, en 2009, LiveGem a également produit des diamants à partir des cheveux de Michael Jackson. Donc, Stéphane et Mathieu, je vous le dis, faites bien attention à vos tignasses. Si vous ne voulez pas retrouver vos cheveux transformé en diamant et porté en piercing par un admirateur.
Oh, vous imaginez,
Stéphane. J'adorerais, oui. Oh, comme ça. Je vais garder mes cheveux, tiens.
On vivrait sous la forme de diamants. Merci beaucoup,
Clémentine. Bravo.
Évidemment, vous restez avec nous puisque c'est maintenant la séquence dont vous avez exigé contractuellement qu'elle soit quotidienne. Le quiz d'histoire qui vous permet d'humilier Stéphane Bern.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Nietzsche disait:
Wir brauchen so 500 Haus, aber durch eine sofortige Verstärkung wurden wir 3000, als wir am Hafen ankamen.
Bon, comme j'ai fait espagnol LV2, je sais pas ce que ça veut dire, mais une chose est sûre, la volonté de puissance Der Willsurmacht va maintenant s'illustrer à travers ce duel épique qui oppose chaque après-midi la grande historienne Clémentine Portier-Kaltenbach et le grand enfin Stéphane Bern, quoi. Pour l'instant, Clémentine compte 7 victoires, mais attention, elle a connu un revers vendredi dernier. Alors elle se l'est promis. Aujourd'hui, Stéphane finira
dans le même état que la momie de Ramsès II.
Jour à Bern to be alive. Alors, vous connaissez le principe, éminemment complexe. C'est un vrai faux. Première question pour vous, Stéphane. Le naturaliste Charles Darwin a été le premier homme à mettre des petites roulettes sous sa chaise. Vrai ou faux ?
Oui, je dirais oui.
Sans procéder à une réflexion.
Moi, je dirais non, parce que Louis XVIII avait bien une chaise roulante.
Ah, et puis, attendez, la question, c'est le premier.
Est-ce qu'il a été le premier homme à mettre des petites roulettes sous sa chaise ?
Je
pense que d'autres en avaient avant. C'est vrai, Louis XVIII, qui était podagre, il avait une chaise à roulettes.
Et couteau, sous la Révolution, là.
Et Talleyrand. J'ai vu sa chaise aussi.
Bien sûr, et même le premier dauphin avec sa tuberculose osseuse avait aussi une chaise roulante.
C'est terrible, Stéphane, parce que vous avez donné la bonne réponse dans un premier temps spontanément et ensuite mal orienté par Clémentine.
Vous avez bien dit.
Vous avez répondu n'importe quoi. Et donc non, c'était vrai, Stéphane. Oui. Aussi incroyable que ça puisse paraître, Charles Darwin avait ramené bon nombre de spécimens de biologie à travers le monde pour les étudier plus rapidement. Passé de l'un à l'autre rapidement, il a eu cette idée géniale de mettre des petites roulettes sous sa chaise. Alors, question 2 pour vous, Clémentine. Si je dis aujourd'hui un moment, on ne sait pas trop combien de temps ça va durer. Par contre, au Moyen-Âge, un moment, c'était 90 secondes. Vrai ou faux ? Ne donnez pas des... Quand vous savez, Stéphane, ne donnez pas de réponse.
Alors là, j'ignore la réponse à cette question. Au Moyen-Âge, il n'y avait pas de moyen de mesurer le temps autre que des clepsydres, donc on ne pouvait pas calculer 90 secondes, donc c'est faux. Qu'est-ce que c'est que cette ânerie encore ?
Vous répondez faux.
Je réponds faux.
Stéphane, je dirais vrai.
Mais vous êtes documenté sur le sujet ou
pas,
c'est
une
intuition ? C'est une bonne réponse de Stéphane Bern, c'est vrai.
Bravo Stéphane.
C'était une unité de temps médiévale. Le très sérieux Oxford English Dictionary a trouvé un écrit de John Trevisan, un écrivain et traducteur natif des Cornouailles, datant de 1398. Il y a 40 moments dans une heure, donc cela fait 90 secondes. Eh bien, je donne le point à Stéphane. Je suis comme ça.
Je m'incline avec
il avait l'intuition.
Oui, normalement, vous n'aurez pas eu de point, parce que la question ne vous était pas adressée. Donc, vous pouvez noter quand même que je suis magnanime. Question qui va vous départager, les amis. On connaît tous le redoutable empereur romain Caligula. Mais que veut dire Caligula ? 3 propositions.
Petite sandale.
Petite sandale. Belle enfant. Ou grosse feuille de vigne. D'après vous, Stéphane.
Oh, moi, grosse feuille de vigne.
Grosse feuille de vigne, bien sûr.
Oh, quelle mauvaise réponse. Oh, mais vous êtes ignare pour des historiens. Et oui, vous aviez raison, c'est une petite sandale ou sandalette. Enfant, Caligula, il accompagnait son père sur les champs de bataille. Il était habillé comme un petit soldat avec des petites sandalettes, d'où ce surnom.
Grosse feuille de vigne,
je vous dis bravo. Ça pourrait être votre surnom, tiens.
Europe 1, historiquement vôtre.
Notre spécial collectionneur continue, Mathieu, avec un garçon qui, contrairement à vous, ne collectionnait pas les rondes serviettes et les bolets de cidre avec son prénom dessus. Non, il a eu une vie un chouïa plus excitante que la vôtre.
Mais qu'est-ce qui peut être plus excitant que de collectionner les rondes serviettes et les bolets de cidre avec mon nom dessus, Stéphane ? Je ne vois pas.
Collectionner les femmes, Mathieu. Ah, oui. On va parler du mythique Casanova, un personnage, bon, pas très MeToo, certes, mais très, très rigolo.
Vous débrieferez avec Marlène Schiappa. Quant à moi, Stéphane, je vous parlais de votre troisième artiste préféré juste après Marcel Hamon et Dario Moreno, Bob Sinclair, l'un des plus célèbres DJ du monde, mais aussi un des plus grands collectionneurs de disques vinyle.
. 16h-18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bienvenue à toutes et à tous qui nous rejoignez pour Historiquement vôtre, l'émission qui se propose de secouer le tapis
parfois poussiéreux de l'histoire.
Oui, Stéphane Bern est le propriétaire du tapis et moi je suis l'homme de ménage qui le secoue. Je suis Mathieu Noël et je jubile également à l'idée de vous retrouver pour une deuxième heure d'Historiquement Vôtre. Notre thème aujourd'hui, les collectionneurs, ces personnes qui traversent la vie obnubilées par une passion, parfois même deux.
J'ai deux passions dans la vie, la sexualité de groupe et les maisons normandes.
Alors justement, Stéphane, après l'histoire de Philippe de la Renotière qui a passé sa vie à collectionner les timbres et dont on imagine facilement la galère que ça a dû être pour lui de pécho des meufs, nous allons parler à présent d'un collectionneur beaucoup plus doué avec les femmes.
Peut-être le plus doué de tous, mon cher Mathieu.
Benjamin Biolay.
Non, son ancêtre. Ah. Enfin, d'une certaine manière. Giacomo Casanova. Probablement le séducteur le plus célèbre de l'histoire. Sa légende est-elle méritée? Parce que, vous savez, c'est rentré dans le langage courant. On dit, c'est un Casanova. A-t-il vraiment tenu dans ses bras plus de 100 femmes?
Parce qu'il suffit de la tenir dans ses bras pour que ça compte. Alors attendez, je refais le calcul. 4, 5, 6...
Non Mathieu, c'est juste une manière élégante de formuler les choses. Mais bon, l'élégance est un concept qu'il faudra que je vous explique un jour. En attendant... au programme de cette deuxième heure d'émission et jusqu'à 18h. Après avoir appris qu'un simple timbre peut coûter jusqu'à 7 millions d'euros, 9 millions de dollars, ouais. Qu'un moment durait 90 secondes au Moyen-Âge, vous apprendrez tout sur la moule.
Sur la moule. On dira ce qu'on veut de cette émission, mais elle est pour le moins éclectique, comme vous dites.
Oui, la... Non mais j'ai fait cette faute une fois.
Une fois dans votre vie,
et ben, c'était...
ça sera ressorti tout le temps.
Et la moule frite.
Ah oui.
Le classique plat belge dont le non moins belge Olivier Pouls, notre chroniqueur gastronomique, nous livrera tous les secrets.
Et puis après la folle histoire de Casanova, ce sera à vous, chers auditeurs, de jouer autour de notre troisième collectionneur du jour, Bob Sinclair, l'homme aux 35 000 disques. Je vous livrerai un portrait de lui véridique à 99%. Si vous trouvez l'erreur, banco mes agneaux, vous remportez une croisière de luxe dans les Caraïbes, commentée par Stéphane Bern, en demi-pension, dans la même chambre que Stéphane.
J'adore.
Attendez quand même de voir qui gagne.
16h, 18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Chaque après-midi, c'est sur un plateau d'argent porté par les mains gracieuses et gantées de blanc de Stéphane Bern que nous vous proposons une alléchante brochette. Aujourd'hui, le chef vous propose une brochette Philippe de la Renotière, Casanova, Bob Sinclair. C'est une association qui peut surprendre, moins quand on sait qu'ils sont tous les trois de grands collectionneurs, dans des genres, c'est vrai, assez différents, des timbres vinyles en passant par les demi-mondaines. Pourtant, c'est le même goût de l'accumulation qui les anime. Voici tout de suite l'histoire de Casanova.
Historiquement vôtre.
Le récit.
Nous prenons la direction du XVIIIe siècle avec un personnage qui s'inscrit dans une culture de la galanterie bien plus ancienne. Depuis Louis XIV au moins, et pour peu qu'on soit libertin, on se vante dans les salons de ses conquêtes ouvertement ou à demi-mot. On les appelle
des serial baiseurs, c'est
Stéphane. Séducteurs.
Séducteurs, c'est ça. Oui.
De ces grands séducteurs, le premier sur la liste est effectivement Casanova. Giacomo, de son prénom. Italien, violoniste, duelliste, chimiste, arnaqueur, joueur, espion et diplomate de
Arrêtez
son état.
Arrêtez de donner mon CV comme ça, Stéphane, c'est gênant.
Quand il meurt à 73 ans, en 1798, le Vénitien a tout connu. La gloire et la misère, la richesse et les faillites, la décadence et la prison. Et il a surtout beaucoup connu, beaucoup pratiqué et beaucoup écrit sur l'amour et surtout... sur l'amour charnel.
Il a beaucoup connu, il a beaucoup connu aussi, Stéphane, si je ne m'abuse. Bon,
c'est vrai, Mathieu, qu'en plongeant dans les archives, les historiens ont recensé 122 conquêtes, 122 maîtresses. C'est précis et ce n'est pas rien. D'autant que c'est probablement sous-estimé. S'il y a bien un sujet sur lequel Casanova n'exagère pas, c'est sa vie amoureuse.
Et ce qui est fou, c'est qu'à l'époque, il n'y a pas Tinder.
Oui, d'ailleurs, nous n'avons pas toutes les photos. Si beaucoup de conquêtes restent anonymes, d'autres sont bien identifiées, comme la très riche, très excentrique et très crédule marquise d'Urfé, figure des salons parisiens et apprentie alchimiste à ses heures perdues. À sa naissance, en 1725, on n'aurait pourtant pas nécessairement parié sur Casanova pour mener une telle carrière de séducteur.
Ah bon ?
Casanova naît dans une famille de roturiers vénitiens. Pire encore, c'est le fils d'un couple de comédiens, profession méprisée s'il en est. Ensuite, Casanova n'est pas particulièrement beau. Un physique moyen, tout au plus.
C'est quoi un physique moyen, Stéphane ?
C'est un peu moi, Mathieu.
Oh non, vous êtes trop modeste.
Non, vous savez bien, je le pense. Mais surtout, Casanova a commencé sa vie comme abbé. Bon, sur le papier, ce n'est pas a priori la profession qui vous destine le plus à aligner les aventures amoureuses.
N'allons pas.
Casanova était à peu près autant fait pour être homme d'église que vous.
Ce qui n'est pas peu dire, Stéphane.
Rapidement, il rend son aube, préférant se consacrer à dégrafer des corsets. Mais quelques années avant lui. À 20 ans, sa carrière dans les ordres est terminée pour l'excellente raison que Casanova vient de séduire la fille de son professeur de français. Ce n'est ni la première, ni la dernière. Il a toujours aimé les femmes. Bien plus tard, il écrira dans ses mémoires « Me sentant né pour le sexe différent du mien, je l'ai toujours aimé et je m'en suis fait aimer tant que j'ai pu. »
Et il a pu beaucoup.
Oui, au fil d'une existence improbable et libre qu'il a menée à travers tous les salons et toutes les cours d'Europe, il a tout connu, tout. À commencer par la prison des plombs à Venise, dont il s'évade après 16 mois de détention pour outrage aux bonnes mœurs. Il s'est mêlé d'alchimie, d'occultisme, il a fait 10 fois fortune et s'est retrouvé 10 fois en faillite. Casanova, c'est un roublard qui a su se faire une place dans un milieu social à 1000 lieues du sien grâce à son bagout, son élégance, sa finesse d'esprit, son sens de la formule qui fait mouche. Et c'est ce côté canaille qui a fait merveille auprès des femmes, pour leur plus grand bien d'ailleurs.
Son côté canaille, mais c'est vous la canaille Stéphane, vous nous dites carrément que Casanova était un bon coup quoi.
Non, moi je ne sais pas malheureusement, mais disons que les lettres qu'on a conservées de ses amantes en témoignent. Ses conquêtes sont, comment dire, rarement déçues. En un siècle où ces messieurs se préoccupent parfois assez peu du plaisir de leurs amantes, Casanova, lui, met un point d'honneur à les satisfaire. Il y trouve son compte, bien sûr. À propos d'une jeune femme avec qui il passe une nuit assez peu reposante, il écrit « Ces continuelles pamoisons me rendaient immortel. » Au travers de leur plaisir, c'est aussi le sien qu'il satisfait. Mais tout a une fin.
Oh !
Europe 1, historiquement vôtre.
Il joue avec nos nerfs pour mieux les exciter, comme jadis Casanova lorsqu'il s'amusait à épater ses dames sous la couette. Stéphane Bern vous fait mariner un peu avant de vous raconter la suite des aventures de Giacomo Casanova.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre continue et sans doute comme moi vous brûlez d'entendre la suite des aventures de notre deuxième personnage du jour, celle du collectionneur le plus sulfureux de l'histoire, Casanova, dont Stéphane Bern a lu pour nous les mémoires avec son assistante Ségolène.
Tous les couples pourraient y puiser un tas de recettes nouvelles. C'est incroyable ce qu'on peut arriver à faire à 2.
Et à 4, et à 12.
Alors là, c'est sans fin. Ça me rappelle le mécano que mon père m'avait offert pendant la guerre. C'était un numéro 1.
Stéphane, de bons souvenirs. Mais revenons plutôt à l'histoire déjà suffisamment borderline de Casanova lui-même. Je rappelle que vous nous avez vendu Casanova comme un homme qui aligne les conquêtes avant de nous laisser en plan en expliquant que tout s'est arrêté un jour. Mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Il s'est passé, Mathieu, que collectionner des aventures plutôt que des timbres, ça ne laisse pas tout à fait les mêmes traces sur l'organisme. On vieillit plus mal dans un cas que dans l'autre. Après 30 ans à se promener de cours en cours et de salon en salon, Casanova n'est plus l'homme flamboyant qu'il a été. Et au tournant des années 1780, alors qu'il s'approche gentiment de la soixantaine...
Comme vous, Stéphane.
Bon, que vous voulez dire pas du tout.
Pas du tout.
En revanche, l'étoile de Casanova commence à pâlir. Il perd peu à peu la plupart de ses soutiens. Il a attrapé la vérole aussi. C'est le petit cadeau qu'on offrait que les dames vous offraient quand vous aviez les butinés. Évidemment. Ce qui est plus rare, je vous l'avoue, quand on se contente de faire dans la philatélie comme moi et comme notre ami Philippe Von Ferrari. Mathieu, bon, les années passent, le corps ne suit plus, Casanova ne séduit plus grand monde, le temps des conquêtes est terminé. En 1784, il en est réduit à accepter l'offre d'un aristocrate de Bohème, Joseph Karl von Waldstein.
Quand vous dites accepter l'offre, c'est sexuel ?
Non. Il était bibliothécaire de cet aristocrate. Fini la gloire, Casanova n'est plus que le témoin usé d'un monde qui disparaît petit à petit, diminué, malade. Il vit le plus souvent seul avec un de ses neveux, Carlo, et sa chienne, Finette.
Finette, ça ne veut pas très italien, je pense qu'on disait plutôt Finette.
Oui, le prince de Ligne, un de ses amis proches, écrit de lui... Il est fier parce qu'il n'est rien. Et pourtant, Casanova a un dernier tour dans son sac.
Ah, je me disais aussi.
Oui, le temps où il peut encore espérer une nouvelle amourette est peut-être évolué, mais le plaisir du séducteur, du collectionneur, réside aussi dans le souvenir des jolies choses, des années heureuses. Alors, Casanova, et il est là en Bohème, imaginez-le, dans la bibliothèque, et il se lance dans le récit de sa vie. 4000 pages de souvenirs écrits en français, la langue de l'aristocratie européenne à l'époque. C'est drôle, c'est enlevé, C'est aussi l'une des plus belles sources dont on dispose pour comprendre ce que pouvait être la vie de cour dans l'Europe du XVIIIe siècle.
Mais c'est explicite un peu, c'est coquin ou c'est...
Oui, c'est aussi le récit de ces 122 amours. Bien sûr, comme cette Lucie, on connaît que le prénom, parce que bon, parfois il est assez pudique sur le nom des belles. Blanche de peau, noire d'yeux et de cheveux, couverte de sa seule chemise et d'un jupon lacé de travers qui laissait voir nue la moitié de sa jambe, elle me regardait d'un air libre et serein.
J'ai chaud subitement, Stéphane. Vous pouvez m'éventer ?
Non, je monte la clim, c'est plus simple. Alors, oui, c'est horrible pour l'époque. Aujourd'hui...
Bon, oui, pour aujourd'hui, oui, c'est pas très émoustillant.
C'est pas très émoustillant. S'il ressort un enseignement inattendu de son livre, c'est bien que Casanova... C'est parfois brûlé à ce petit jeu de l'amour et du hasard. Au fil des pages et de la liste de ses maîtresses, on devine parfois l'ombre d'un regret.
Ah.
Le regret de n'avoir pas pu vivre pleinement une histoire d'amour, avec notamment la mystérieuse Henriette, une Provençale qui vécut avec lui à Parme, sous le nom d'Anne Darcy. Les érudits n'ont jamais réussi à se mettre d'accord sur sa véritable identité. Mais qu'importe. À lire Casanova, on saisit qu'elle a été l'amour de sa vie. Aucune des autres femmes de cette longue liste n'a jamais pu rivaliser avec celle qui lui laissa un jour un mot gravé avec la pointe d'un diamant sur la vitre d'une chambre. Tu oublieras aussi Henriette. Les mémoires de Casanova prouvent bien le contraire. Elles prouvent aussi qu'on laisse parfois des plumes quand on joue ce petit jeu de la collection amoureuse.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour mieux comprendre l'obsession de Casanova, on aurait pu contacter un spécialiste, comme par exemple le psy de Patrick Bruel, mais ce dernier, se retranchant derrière le secret médical, nous avons décidé de contacter Michel Delon, professeur de littérature française du XVIIIe siècle, spécialiste de l'histoire des idées et de la littérature libertine.
Bonjour Michel Delon, merci d'être avec nous sur Europe 1 pour parler d'un homme que vous avez étudié sous toutes les coutures et si j'ose dire... voilà, c'est Casanova. On vous doit notamment Casanova, histoire de sa vie, paru chez Gallimard. Vous avez également présenté une édition illustrée Casanova, mes années vénitiennes, et non pas vénérienne, je le dis pour...
parce que... Stéphane, non.
Non, parce qu'il avait attrapé quand même.
Aux éditions Cézanne et Masneau. Ce passage-là.
Oui. Au fond, est-ce qu'il collectionnait les femmes comme des objets, Michel Delon, ou est-ce qu'il les respectait et c'était... Il cherchait la vie dans chacune d'entre elles.
Bonjour. Oui, en vous écoutant, vous avez insisté sur les grandes passions de Casanova, Henriette ou d'autres. Et dans ces cas-là, il est tout à fait respectueux. Il est soucieux de réciprocité. Il veut leur apporter du plaisir et il tire son propre plaisir de leur plaisir. Mais quand on se plonge dans les milliers de pages de l'histoire de ma vie... On s'aperçoit qu'il y a aussi toute une série d'histoires un peu moins glorieuses, de filles qu'on prend sur un coin d'escalier ou dans un coin de rue. On est dans une Europe où la promiscuité est permanente, où la vulnérabilité n'est pas du tout respectée. Hein. Mmh. Donc quand il peut profiter d'une fille qui passe, il saute dessus.
Mmh. Il était sex addict, comme on dit aujourd'hui quand même.
Addict, oui, ça, il n'y a aucun doute.
Il n'y avait pas la Bedford Center à l'époque. Hein.
Oui, on ne pouvait pas.
On ne pouvait pas aller se faire soigner.
J'ai beaucoup aimé votre formule tout à l'heure.
Oui.
Mythique, mais pas très MeToo. Ça, c'est bon.
Mais ce qu'il aimait, c'était la séduction. Il avait besoin de...
Oui.
C'est de la boulimie, si je puis dire.
Non, c'est vrai qu'il y a cette boulimie. Et le terme boulimique est d'autant plus juste que son autre grande passion, c'est la nourriture. Et que, dans un certain nombre de scènes, il arrive à joindre la séduction d'une femme et le plaisir de manger, par exemple, les huîtres. Hein, c'est un Vénitien, donc un homme de la mer. Il adore les fruits de mer. Et le summum d'une séduction, c'est quand il fait passer une huître d'une bouche à l'autre. Hein, c'est une préparation à tout ce qui va se passer ensuite.
Vu les grands signes rivois que me fait Stéphane, j'ai l'impression que ça lui inspire d'autres liens et d'autres images.
Non, il n'y avait pas que des perles, visiblement, quand il ouvrait les huîtres. On vous retrouve dans un instant, Michel Delon, pour parler de cet incroyable Casanova que vous connaissez mieux que personne, qui fut tour à tour violoniste, écrivain, magicien, espion, diplomate, mais surtout tombeur de ces dames.
J'ai l'impression que vous parlez de moi, Stéphane.
De Casanova, Mathieu.
Ça me rassure, parce que moi, j'y connais rien du tout en magie.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Trois destins, une passion. Telle est la recette chaque après-midi d'Historiquement Vôtre, l'émission où l'histoire s'encanaille avec l'humour et où l'élégance de Stéphane Bern se fracasse sur le rocher tranchant de ma grivoiserie.
C'est fou comme vous arrivez à dire quelque chose de très simple avec une phrase très compliquée.
Merci.
Chaque après-midi, Historiquement Vôtre, ces trois personnages que rien ne semble relier et qui pourtant ont en commun une passion. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre des collectionneurs de timbres, de disques, mais aussi de femmes. Et on parle de Casanova avec vous, Michel Delon. Je crois savoir que, au fond, il se vantait un peu quand même, Casanova,
oui.
Notamment dans Histoire de ma vie.
Est-ce que tout est vrai? Est-ce qu'il a vraiment autant couché que ça? Est-ce qu'on doit nourrir, nous, des complexes avec Stéphane?
Non, il ne faut jamais avoir de complexes, mais en particulier avec Casanova, hein, quand il écrit, vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce n'est plus le jeune aventurier toujours prêt à payer de sa personne et...
Oui.
Et à sauter dans toutes les alcôves. Hein, c'est un homme vieillissant, et à l'époque, à 60 ans, on était beaucoup plus vieux que maintenant. Il est déçu, d'autant plus que c'est les années 80, les années 90, et tout son monde aristocratique, princier, est bouleversé par la Révolution française et les guerres.
Mmh.
Hein, le prince de Ligne, son ami, vous en parliez tout à l'heure, le prince de Ligne a perdu... son château occupé par les républicains français.
Mmh.
Et il est réfugié à Vienne. Hein, et le prince de Ligne, c'est l'oncle du comte de Wallstein qui a accueilli Casanova. Donc, il écrit aussi par... c'est une forme de thérapie. Il se rappelle sa jeunesse pour oublier l'état dans lequel il est désormais. Et... il veut faire rire ses amis. Il veut faire rire le prince de Ligne auquel, qui a le même âge que lui. Hein,
et... Oui, mais alors Michel Delon, quand on veut faire rire, souvent on embellit. On a tendance à romancer, à exagérer. Alors est-ce qu'on est sûr de la véracité de ses mémoires?
Alors, depuis deux siècles, il y a des érudits extraordinaires qui ont cherché, qui ont fouillé tous les... C'est une secte étrange, les Casanoviens ou les Casanovistes. Hein, souvent, vous avez des grands diplomates qui ont profité de leur voyage pour faire des recherches dans toutes les archives d'Europe. Et alors, souvent, par exemple, Henriette, qui rencontre à Parme, avec qui il vit quelques semaines, il semble bien qu'elle ait existé. Mais dans le détail... dans le détail de ce qui s'est passé dans les lits, comment voulez-vous qu'une archive vous dise il a fait 12 coups comme il s'en vante?
Bien sûr. Mais Michel Delon, c'était un roublard, c'était un mytho, il a fait des choses, il a ruiné des femmes.
Oui.
Est-ce qu'on peut dire que Casanova était un salaud? Ou c'est, c'est rétrospectivement qu'on peut le dire?
Mais, oui, c'est sûr que quand on lit, on est pris par cette histoire, on a une espèce de grand carnaval permanent, de fêtes, des grandes histoires d'amour, mais en même temps, on a une espèce de recul a posteriori quand on voit... mais il est représentatif d'une époque... hein, d'une époque où les femmes étaient moins respectées qu'on essaye de le faire aujourd'hui et où l'enfance n'était pas protégée du tout.
Il y avait chez lui, pour terminer, Michel Delon aussi, le désir de la transgression. C'était quelqu'un qui ne voulait pas accepter les règles.
Oui,
d'une
absolument.
Certaine manière, il y a quelque chose du Marquis de Sade aussi chez lui.
Peut-être pas du Marquis de Sade, mais c'est sûr que quand il commence à vieillir, il retrouve des anciennes maîtresses, vous voyez, 15-20 ans plus tard, et elles ont des enfants, et il est persuadé que ce sont ses filles. Et donc... séduire les filles des jeunes femmes qu'il a connues autrefois, c'est se donner l'impression de pratiquer l'inceste. Et donc là, il est dans un état et il explique qu'il ne voulait absolument pas le faire, mais que finalement, ça s'est fait très naturellement.
Sacré Giacomo, hein.
Oui.
Il n'est pas donné en exemple. En tout cas, je vous recommande de lire les Histoires de ma vie. Moi, c'est en 4 volumes chez Gallimard. C'est formidable. Casanova, Histoire de sa vie. Merci Michel Delon d'avoir été en ligne avec nous sur Europe 1.
Je vous en prie.
Europe 1, historiquement vôtre.
Tragique oubli, déni volontaire, en tout cas faute professionnelle. En effet, Stéphane, sur les presque 150 numéros de Secrets d'Histoire, votre célèbre émission de France 2, pas un seul consacré au plus célèbre roi belge, Olivier VI le Glouton. Personnage pourtant assez pittoresque, surtout au regard de la tendance actuelle en faveur d'une alimentation équilibrée et détox.
Où sont les poulards ? J'ai faim ! Où sont les fèves ? Les pâtés de serre ?
Chaque après-midi, à l'heure du goûter, il anticipe déjà notre dîner avec l'histoire d'une recette et la recette elle-même, Olivier Poulsary.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, spécial collectionneur aujourd'hui. Et celui qui vient de nous rejoindre en studio, Mathieu, est lui aussi à sa manière un collectionneur.
Oui Stéphane, et pas des moindres. Je vais d'ailleurs donner l'adresse exacte de sa cave en Bourgogne. Cave dans laquelle vous trouverez pas moins de 10 000 bouteilles, dont très peu de Baron de l'Estac, hein, tout ça est vrai. Surtout qu'il n'a pas encore pris la peine de la sécuriser par une porte blindée. Alors depuis Paris, vous prenez la 6, direction Lyon, vous passez au Serre, vous sortez à Nitry, notez bien... Ah pardon, je dirai la suite demain, parce que là je sens que je vais prendre un coup de poing dans la glotte. Bonjour Olivier Pouls.
Bonjour les amis, et vous remarquerez que après Casanova et ses conquêtes féminines, la... recette d'aujourd'hui est pleine de sens.
Oui, c'est vrai, oui, parce qu'on a parlé des fruits de mer.
Il adorait, et on a parlé des huîtres, mais vous, vous collectionnez les coquilles de moules.
Oui, et les moules aussi à l'intérieur, mais je les mange.
Oui, et c'est moins cher comme collection, ça.
Bah, absolument. Mais c'est vrai que peut-être Casanova était-il d'ailleurs grand amateur de moules, on ne le saura jamais. Mais enfin, de moules, en tout cas, de moules marinières, j'entends.
Est-ce qu'on mangeait déjà des moules à l'époque de Casanova ?
Bien sûr, on mange des moules depuis l'Antiquité. Mais, mais la moule n'est quand même pas un produit qu'on vient de découvrir.
La moule n'est pas de première fraîcheur, c'est ça que vous dites. Alors, expliquez-nous un petit peu.
Non, mais en revanche, la moule de Bouchot, celle-là, c'est beaucoup plus récent. Est-ce que vous savez ce que c'est d'ailleurs que
non,
la moule
non,
de
je
Bouchot
sais pas,
Parce que
je
quand
sais
on
pas.
Parle de moule, souvent, on nous vante les fameuses moules de Bouchot, qui sont d'ailleurs une spécificité assez française, même totalement française. Qu'est-ce que la moule de Bouchot?
Et c'est peut-être une moule qui est élevée plutôt qu'une moule naturellement
accrochée. C'est une méthode d'élevage.
C'est exactement une méthode d'élevage.
Quand nos deux cerveaux salissent,
c'est impressionnant.
Ça fait des étincelles.
C'est impressionnant. Alors, ce n'est pas du tout une variété ou une appellation.
C'est pas une région, quoi.
Non, c'est une méthode d'élevage qui est née, et alors on la date très précisément, au XIIIe siècle, et on la doit à un navigateur irlandais qui s'appelait Patrick Walton. Et ce pauvre navigateur, pris dans une tempête, a fait naufrage sur les côtes charentaises. Son bateau était cassé, il était sur les plages, il ne savait pas très bien comment manger. Alors il a eu l'idée de planter des grands pieux dans la mer, de tendre des filets.
Il est un peu
con,
il était pas sur une île déserte, il était en Charente.
Bah, et s'il l'avait su, il aurait marché, peut-être qu'il aurait trouvé une taverne à 10 km de là.
Ça
mais
tient
en attendant,
à pas grand-chose.
Ça tient à pas grand-chose. En attendant, il essayait d'attraper des oiseaux au travers des filets et, qui étaient tendus par des pieux dans la mer. Et il s'est aperçu qu'il n'attrapait pas d'oiseaux, mais...
Il attrapait des moules.
Il y avait des moules qui venaient s'agglutiner sur ses pieux. Et ça lui a permis de se nourrir. Et il a inventé cette méthode...
La technique d'élevage.
D'élevage aujourd'hui, de la moule. Les bouchots, ce sont ces fameux pieux qu'on plante dans la mer, notamment dans la baie du Mont-Saint-Michel. Et on vient ensuite récolter les moules qui ont grandi, accrochés à ces pieux. Alors, ça a un intérêt, c'est que ces moules, du coup, elles n'ont pas de sable, ou très très peu, parce que les moules sauvages qu'on racle dans le fond de la mer, celles-là sont en général assez sableuses.
On mange encore des moules sauvages?
Alors, on mange encore des moules sauvages, bien sûr. Il y a encore des bateaux qui draguent les fonds de mer. C'est pas d'ailleurs, d'un point de vue écologique, toujours ce qu'il y a de plus remarquable, mais notamment en Europe du Nord, en Belgique ou en Hollande, il y a beaucoup de pêche de moules sauvages.
Et quand on va à Bruxelles manger des bonnes moules, c'est des moules qui viennent du fond de la mer ou des moules de Bouchot?
Et il y a les deux. Et c'est vrai que les moules de Bouchot sont plutôt françaises. D'ailleurs, sur la côte atlantique française qu'on en trouve la majorité de la production. En tout cas, l'association entre la moule et la frite, elle est popularisée à Bruxelles, en Belgique donc, par un fameux restaurateur du prénom de Léon, qui a évidemment... il avait un petit estaminet qui existe toujours. Le premier Léon de Bruxelles existe, une petite rue à côté de la Grand Place de Bruxelles. C'est de là d'où tout est parti, puisqu'après la franchise est arrivée il y a 20 ou 30 ans en France. Enfin, ça n'a strictement plus rien à voir parce que cette vraie petite brasserie, elle date de la fin du 19e siècle.
Mais la brasserie qui existe toujours aujourd'hui en Belgique, elle est bien.
Elle est
chez Léon de Bruxelles, l'authentique.
Alors, les murs sont authentiques, mais on y pratique une cuisine aujourd'hui qui est la cuisine des Léons de Bruxelles. On ne peut pas dire que ce soit mauvais. Les moules sont de qualité et que les frites sont bonnes. Et en Belgique, on sait faire les bonnes frites à la graisse de bœuf.
Avec la bonne sauce.
Avec la sauce.
C'est quoi la bonne sauce?
C'est surtout alors la recette de la moule marinière telle que moi je la pratique et qui est la meilleure indiscutablement.
en toute simplicité et en toute modestie,
sont des belles moules de Bouchot, parce que c'est vrai qu'elles sont très bonnes, les moules de Bouchot. Elles ont beaucoup de goût. Alors il faut les nettoyer évidemment, ça va enlever la petite partie qui peut être sur le côté, là, vous voyez ces petits filaments qui peuvent traîner.
Ah oui,
vous les nettoyez bien, vous les mettez dans une casserole avec un verre de vin blanc, un oignon, du céleri branche haché, un peu de sel, un peu de poivre. Et à partir du moment où vous avez une ébullition, vous les jetez, vous fermez le couvercle. Dès que les moules s'ouvrent, tac, elles sont prêtes à être consommées.
Ah, tout de suite, il faut pas...
Ça cuit très 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 vite, les moules.
C'est-à-dire
C'est une minute trente maximum. Ouais. Ah non, et puis surtout, si comme c'est trop cuit, c'est pas bon. Mmh. Ça devient un peu farineux. Donc il faut que ce soit cuit très 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 rapidement. Et puis après, on va hacher un peu de persil par-dessus. Mmh. Et hop, c'est parti. Vous savez, vous prenez une coquille de moule pour attraper la chair autres, de la suivante. Et ainsi
et
de suite.
Si jamais on tombe sur des moules non ouvertes, ça veut dire qu'elles sont pas bonnes ou c'est une légende, ça?
Les moules non ouvertes, je vous souhaite bon courage pour les ouvrir. Vous allez casser la pointe du couteau.
J'ai beaucoup de muscles.
Vous les laissez. Non, normalement, si vous avez bien cuit vos moules, vous en aurez 4-5 qui ne seront pas ouvertes. Mais elles ne sont pas mauvaises. Ce qui est mauvais, en revanche, ce qui
comment
est dangereux,
détecter une
c'est des
moule.
Moules qui sont déjà ouvertes alors que vous n'avez pas commencé à les cuire.
Celle-ci,
quand vous achetez des moules, elles doivent être bien fermées. Et s'il y en a qui sont ouvertes, là, pour le coup, vous ne les mangez pas.
C'est pendant la cuisson que la moule s'ouvre. Merci, oui, merci beaucoup, Olivier Pouls.
Et on vous retrouve chaque samedi à 11h dans la table des bons vivants de Laurent Mariotte sur Europe 1.
Europe 1, historiquement vôtre.
Chaque après-midi, tel Adam et Ève gambadant gaiement dans le jardin d'Éden avec mon complice Stéphane Bern, nous nous baladons gaiement dans l'histoire. Seule différence, nous avons des vêtements.
Oui, pas seulement, nous avons aussi un fil conducteur, Mathieu. Chaque jour, historiquement vôtre, c'est l'enchaînement virtuose de trois histoires parallèles, trois destins très différents, mais avec un point commun. Aujourd'hui, nous parlons de grands collectionneurs. De timbres, comme Philippe de la Renotière von Ferrari, de femmes, comme Giacomo Casanova, ou de disques, comme le célèbre DJ Bob Sinclair.
Oui, Stéphane, sans vouloir vous faire offense, loin de moi l'idée de rappeler insidieusement que vous êtes né l'année où Bourvil enregistrait La Tendresse avec l'orchestre de Jerry Mango, sachant que la dernière fois que vous êtes allé en boîte de nuit, le DJ passait... Je crois que c'est mieux que ce soit moi qui m'occupe du portrait de notre troisième personnage, le collectionneur de disques icône de la French Touch, Bob Sinclair. Tout sera vrai, enfin, à 99%.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre. Chaque après-midi, une plongée rieuse mais parfaitement documentée au cœur de l'histoire. Enfin, tout ce qu'on vous raconte est 100% vrai, sauf Mathieu Noël.
100% vrai. Enfin, disons, 99% vrai.
Mathieu, c'est la coutume, vous nous brossez le portrait de notre troisième personnage du jour, n'est-ce pas? Un collectionneur, mais un collectionneur de disques, le célèbre Bob Sinclair.
Oui Stéphane, aujourd'hui je vous parle d'un collectionneur compulsif, on le sait peu, qui est accessoirement, on le sait plus, un des DJ les plus célèbres au monde. Si vous entendez par exemple ça, ou encore... Vous vous dites immédiatement, Stéphane...
Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient.
Ah mais non, enfin un peu de respect pour nos jeunes auditeurs. Non, vous vous dites, ah mais oui, Bob Sinclair, j'adore, j'ai guinché là-dessus comme un beau diable au mariage de mon petit-neveu Gonzague, à qui j'ai d'ailleurs distillé des conseils de circonstances.
Ah, jeune puceau, sois vigoureux et tâche de t'employer dès la nuit de noces. À besogner, t'as bien aimé.
C'était un beau mariage, et justement les tubes de Bob Sinclair sont de tous les mariages. C'est ce que les jeunes appellent un DJ, et vous Stéphane, un disque jockey. Bob Sinclair, de son vrai nom Christophe Lefriant, naît en 1969 à Bois-Colombes, en région parisienne. Il va devenir un des pionniers de la French Touch, l'électro à la française, et enflammera les dance floors du monde entier en brassant rythme africain, sample disco et lignes de basse hypnotiques. Pourtant, interrogé sur ses premières sources d'inspiration, il a répondu lors d'une interview « L'été indien » de Joe Dassin, qu'on écoutait dans la voiture avec mes parents quand on partait en vacances.
Je n'ai jamais été aussi heureux que ça.
Comme quoi, ça peut mener à des destins très différents. C'est sur cette inspiration énergique et entraînante qu'il démarre sa carrière, non pas derrière les platines, en tout premier lieu, mais en tant que géotennis au Club Med. C'est en effet un autre trait de caractère de celui qui n'est pas encore Bob Sinclair, la soif de compétition, l'envie de collectionner les records.
Je me suis niqué 3827 kilos de gonzesse.
Oui, ça c'est une autre collection parallèle qu'a entamé Bob très tôt. Mais c'est un point sur lequel il n'aime pas trop qu'on revienne. Déjà que j'avais gaffé l'année dernière quand je l'avais reçu dans ce studio, Stéphane, avec cette question, rétrospectivement un brin maladroite. Alors Bob Sinclair, est-ce que comme 8 Français sur 10, il vous arrive de vous engueuler avec votre femme devant la page d'accueil de Netflix?
Alors, moi je n'ai plus de femme.
Autant pour moi, Bob. Alors, le tennis en pension, c'est bien joli Stéphane, mais la vraie passion de Christophe Lefriant, c'est la musique. Quand il se lance vraiment, enfin, à l'âge de 23 ans, il doit surmonter un autre écueil que son inexpérience, son nom. En effet, pour bosser dans le monde de la nuit, Christophe Lefriant, ça sonne plutôt artisan boulanger auvergnat travaillant le seigle et titulaire du label Belmiche, que DJ résident à Ibiza. Celui que ses camarades de classe surnommaient le friand fromage doit rapidement se dégoter un nom de scène vendeur. C'est dans un film qu'il va le trouver. Fan de Belmondo, il décide de reprendre le nom de son personnage dans Le Magnifique de Philippe de Broca. Il s'appellera Bob Sinclair. Heureusement qu'il n'était pas fan de la soupe aux choux. Et longtemps, il sera magnifique, notre Bob, mais underground. Sa notoriété ne dépasse pas celle des amateurs de house électro-funk. Autant dire que je le connais, mais pas vous. C'est en 2006 que sa carrière commerciale décolle grâce au titre Love Generation, qui devient le titre, le générique de l'émission Star Academy. Les succès s'enchaînent, Bob atteint les sommets dans les ventes de disques et les cimes des tranches d'imposition. Tout lui sourit, les plus grandes stars lui font des ponts d'or pour qu'il mixe lors de leur soirée privée. Mais attention, car Bob est un petit farceur.
Tu joues surtout, tu joues Ibiza, tout le monde l'aime en l'air. Moi, mon kiff, c'est jouer Gilbert Montagnier, on va s'aimer.
Ça, je trouve que c'est plus votre cam, Stéphane.
Oui, hein. Oui.
Vous pouvez l'inviter, mais il coûte cher. Venons-en à son goût pour la collection. Si Philippe de la Renotière von Ferrari collectionnait les timbres poste et Casanova les conquêtes, Bob Sinclair, lui, s'est diversifié. Il a élargi sa passion à tout, en fait. Je cite « J'ai toujours gardé mon âme d'enfant et j'ai un vrai problème avec le fait de collectionner les choses. Je suis incapable de jeter quoi que ce soit. C'est une vraie catastrophe. Je stocke des choses dans plusieurs garde-meubles de Paris. Ils sont tous pleins à craquer. » Et oui, outre quelques milliers de figurines japonaises, Bob a amassé plus de 35 000 vinyles. Le confinement a été l'occasion pour moi de faire du tri. Je suis d'ailleurs tombé sur des cartons que j'avais totalement oubliés.
4 ou 500 préservatifs dedans.
Sacré Bob. À 50 ans passés, il tient la forme. Mais comment ? Je vois Stéphane, vos yeux luire d'un éclat narquois qui signifie que selon vous, Bob finit souvent le nez dans la chenouf. À la paix de la vodka dans le nombril de top modèle biélorusse de 18 ans moins le quart. Eh bien non, honte à vous Stéphane de tomber dans pareil cliché.
Non.
Et non, car pour préparer un set, Bob l'affirme, il mange une plâtrée de pâtes. Il est ce qu'on appelle un extrémiste de la vie saine. Pas de drogue, pas de cigarette, pas d'alcool. Quelques petits sodas de temps en temps. Oui, contre toute attente, Bob est chiant, Stéphane. J'ai cherché sur le web des déclarations choc, irrévérencieuses, subversives. Eh bien, la plus dingue, c'est celle-là. Ce matin, pour arriver à Ibiza, j'ai pris Transavia. Alors oui, son compte Instagram comporte quand même quelques clichés un peu osés. Bob nu avec une poignée d'algues devant son sexe, je vous la conseille. Bob le visage coincé entre trois paires de fesses dans un nightclub. Bob à poil dans un champ de blé visiblement ignorant des dangers liés aux moustiques tigres. Mais comme dirait Stéphane qui s'y connaît...
Pas de quoi provoquer des légères érections.
Non, car il faut croire que Bob Sinclair a su rester, malgré son succès planétaire, un type simple et spontané, équilibré, ce qui est plus rare dans le monde de la nuit. Bref, un type adorable, même s'il m'avait offert quand même un des plus beaux moments de ma carrière, un moment embarrassant, j'entends, la saison passée. Je m'étais dit, c'est cool qu'un des DJ les plus célèbres du monde accepte de venir dans mon émission sur Europe 1. Je m'étais pas dit, il y a un loup. Et bien en fait, très vite, hors antenne, avant l'émission, j'ai compris qu'il savait pas que c'était moi qui présentais l'émission.
C'est enregistré ?
Oui, c'est enregistré, ouais,
c'est
enregistré cet après-midi.
16h-18h.
Et Philippe est là ou ?
Philippe.
Ah non, c'est pas du tout pour Vandel en fait.
Non.
Ah d'accord,
C'est 99% vrai et c'est pas le pourcent faux qu'on vient d'entendre. C'est...
Ah mais ça me venge.
Ça vous venge, hein.
De temps d'humiliation.
Ouais, moi je le repasserai si vous voulez.
Et depuis vous êtes devenu pote ?
Bah depuis il me suit sur Instagram. C'est gentil, je pense que c'est pour compenser l'humiliation et le vent qui m'a mis, je pense.
Ah très bien.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Chaque après-midi dans Historiquement vôtre, on s'intéresse bien sûr aux histoires des hommes et des femmes qui ont fait l'histoire, mais aussi à l'histoire des mots.
Oui Stéphane, des mots que vous maîtrisez avec une habileté qui ne laisse de me fasciner. Quand vient l'heure du mot de la fin, où vous les décortiquez, nous en racontez la genèse avec tant de maestras, je reste cloué, scié, baba d'admiration devant votre insolente aisance verbale. Surtout au moment de prononcer des noms anglais.
L'auteur de Games of Thrones, lui-même, George Martin, R.R. Martin. Oui, donc c'est R.R. Mais ça s'entend pas quoi.
My dear Stéphane, ne nous faites pas mariner plus longtemps. Don't make us marinate anymore. De quel mot ou expression allez-vous nous raconter l'histoire aujourd'hui.
Mathieu, je ne sais pas si vous avez remarqué, et j'aimerais le souligner avant la fin de cette émission, pour cette séquence qui commence à buzzer furieusement, j'essaye autant que faire se peut de trouver un lien entre les expressions du jour et l'activité historique. Et aujourd'hui, de mon propre aveu, le lien est extrêmement douteux.
Ah mince.
C'est en effet en 44 avant Jésus-Christ, début septembre, que sont datés les premiers discours qui ont fait la renommée de l'homme d'État romain Cicéron. Ces discours étaient appelés les Philippiques et ils marquent la violente opposition entre Marc-Antoine, qui brigue lui la succession de César, et Cicéron. Et justement, l'expression du jour est Cicéron, c'est rond de cuir. Cicéron, rond de cuir, vous voyez, le calembour est de piètre qualité.
Mais je vois le niveau, oui.
J'assume. Ouais. Rond de cuir. Vous savez d'où ça vient ? Voilà comment, de façon péjorative, on désigne des employés de bureau, des fonctionnaires souvent peu motivés, voire totalement inefficaces. On se souvient tous du vibrant coup de gueule poussé en direct à la télévision chez Patrick Sabatier, par Francis Lalanne dans Avis de recherche
vous,
en 90.
Rond de cuir !
Oui, exactement. Mais revenons au rond de cuir. Fin 19e siècle, hein, évidemment, les personnes travaillant dans les bureaux et devant rester un certain temps sur des sièges peu confortables, avaient pris l'habitude de rajouter entre la chaise et leur postérieur un coussin de cuir plus ou moins bien rembourré de forme circulaire, ce qu'on appelle un rond de cuir. Depuis que je flâne dans les couloirs d'Europe 1, je peux le certifier aux auditeurs, il n'y a pas de rond de cuir chez nous. La démarche de ce coussin supplémentaire, que l'on peut trouver légitime ou ridicule, a inspiré à Courteline, en 1893, le roman « Messieurs les ronds de cuir », un roman qui décrit avec délectation la médiocrité de certains fonctionnaires et leur propension à faire appliquer bêtement des règlements aussi stupides que leurs coussins, et ce, derrière leur bureau, sans constater sur place l'efficacité de leurs lois, bref, des fonctionnaires hors sol. D'une manière générale, un rond de cuir est donc une personne peu concernée par son ouvrage. Laissons d'ailleurs le mot de la fin à Georges Feydeau, je cite « L'amant est l'artiste de l'amour, le mari n'en est que le rond de cuir. » Et ce n'est pas vous, Mathieu Noël, qui me contredira.
Certainement pas. Grâce à vous, Stéphane, une fois de plus, j'aurai quelque chose d'intéressant à raconter à mes proches ce soir. Historiquement vôtre, plus qu'une émission, une anti-sèche. Qu'est-ce qu'on peut retenir de notre spécial collectionneur, Stéphane ?
Mais tant de choses, Mathieu. Aujourd'hui, on a appris que collectionner les timbres, ce n'était pas forcément un signe de démence. Oui. Que collectionner les femmes, ce n'était pas forcément toujours mal vu par la société. Surtout en Italie, autant que Casanova.
Oui, surtout.
Oui, à condition qu'elles soient majeures et consentantes.
Bien sûr.
Et on a enfin appris, grâce à vous, que Bob Sinclair collectionnait des disques et aimait manger des pâtes. De temps en temps, il s'offrait un soda. Et Olivier Pouls aime les moules. Des moules frites, oui.
Ça, c'est important. Oui, moi, personnellement, Stéphane, j'ai trouvé que ces histoires étaient une invitation à la tolérance. Les timbres, les disques, les femmes, les moules frites. Chacun sa passion, même si parfois cette passion est néfaste et doit être combattue. Comme par exemple, évidemment, l'érotomanie de Stéphane, qui en a conscience et qui se soigne. Son but ?
Vaincre à jamais ses pulsions et atteindre enfin son Saint Graal. La chasteté et la pureté absolue.
Oui, bah je le connais un peu, c'est pas gagné, mais au moins il a décidé de se battre.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous aimez l'histoire ?
Mais vous aimez aussi vous en amuser.
Chaque jour, avec Mathieu Noël, on vous attend de pied ferme pour Historiquement vôtre. D'ailleurs, tiens, vous savez d'où vient l'expression « pied ferme », Mathieu ? Elle nous renvoie au XVIe siècle, dans le Périgord noir.
Non, Stéphane, l'émission est terminée. Ménagez-vous, reposez-vous, gardez-vous sous le coup de quelques anecdotes et dites-nous plutôt ce qui nous attend demain.
Eh bien, demain, on vous racontera les destins un peu foufou de l'empereur romain Néron, de Jeanne la Folle et d'Elon Musk qui veut tous nous envoyer sur Mars. Trois personnages, un seul point commun. Vous découvrirez lequel demain.
C'est fou ça! Encore un programme haut en couleur, chers auditeurs. Je vous retrouve donc demain pour deux heures d'histoire sans se la raconter, avec bien sûr toujours à mes côtés
son Dieu, son guide spirituel, celui qu'il appelle son indispensable.
Oui, vous Stéphane!
Retrouvez Historiquement vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.